Dali, Van Gogh, Goya, Dürer, voyage en terre de couleur. Une émission réalisée par Corinel, un programme Maurice Clément Fèvre. Après avoir retracé les jeunes années de notre artiste dans l'épisode précédent, reprenons notre palette et posons notre chevalet en terre parisienne. Bienvenue chez Hilaire Germain Edgar Degas.
Une rencontre décisive.
Au printemps 1855, alors que Degas rend visite au père de son ami Paul Valpinson, ce dernier lui raconte la visite du peintre Dominique Ingres.
Ingres sort d'ici, il m'a l'air très blessé. Je lui ai refusé de prêter tel tableau pour une exposition qu'il organise. J'ai peur du feu, le local est vraiment trop combustible.
La manifestation en question n'est autre que l'exposition universelle de mi-juillet, où une rétrospective d'Ingres est présentée au Palais des Beaux-Arts. Edgar s'indigne alors et convainc Valpinson de venir avec lui rendre visite au maître le lendemain, afin de réparer cette offense. S'inclinant pour prendre congé de ses visiteurs, Ingres est pris d'un malaise et tombe face à terre. On le redresse, le visage en sang. Edgar, plein de sollicitude, lui nettoie la tête et va prévenir Madame Ingres à quelques rues de là. Au retour, il retrouve Ingres encore tout affecté. Dès le lendemain, il s'inquiète de la santé du maître auprès de sa femme qui lui présente une œuvre. Degas, impressionné par le style d'Ingres, en profite pour exécuter de multiples reproductions de ses tableaux à l'occasion de l'exposition. Nous pouvons découvrir la baigneuse Valpinson à la mine de plomb de 1855, issue d'un carnet conservé à la Bibliothèque nationale de Paris. Un peu plus tard, Valpinson demande à Degas de récupérer le tableau prêté auprès d'Ingres. Alors, Edgar s'enhardit et lui annonce
« Je fais de la peinture. » Je commence, et mon père, qui est homme de goût et amateur, trouve que mon cas n'est pas absolument désespéré.
La réponse d'Ingres ne se fait pas attendre.
Faites des lignes, jeune homme, beaucoup de lignes, soit d'après le souvenir, soit d'après nature. C'est comme cela que vous deviendrez un bon peintre.
Il existe aussi une version différente de la réponse d'Ingres d'après Paul Valéry dans son livre sur Degas. En feuilletant le carton à dessin qu'Edgar lui a amené, le peintre lui aurait répondu.
C'est bon, jeune homme, jamais d'après la nature. Toujours d'après le souvenir et les gravures des maîtres.
Les conseils concis de Dominique Ingres resteront gravés à jamais dans la mémoire d'Edgar. Les voyages en Italie ont débuté l'année précédente. Il rend visite l'été à son grand-père Hilaire Degas à Naples et passe l'automne à Rome. Allons découvrir maintenant les premières œuvres d'Edgar.
Du côté du musée.
Les premiers tableaux sont essentiellement des portraits, autoportraits ou portraits de famille. Avec une exception, son père, qui ne sera brossé qu'une seule fois et au second plan vers 1869. Entre 1850 et 60, il va exécuter une quinzaine d'autoportraits. Il faut noter qu'il se retranscrit toujours avec ce même regard sceptique, incrédule, empreint d'une certaine tristesse. Vers 1854, il se brosse de trois quarts à mi-buste dans un tableau intitulé « Autoportrait ». Autoportrait ou Degas au porte-fusain est une huile sur papier datée de 54-55 au musée d'Orsay, Paris. Il est représenté jusqu'au buste de trois quarts aussi, les mains croisées sur les cuisses, ne souriant pas. Dans la main droite, il tient un porte-fusain, c'est son premier chef-d'œuvre. Portrait de l'artiste, dit Degas au chapeau mou de 57, huile sur papier appliquée sur toile, est à l'Institut de l'art Sterling et Francine Clark à Williamstown. Âgé de 23 ans, coiffé d'un chapeau noir, un foulard rouge autour du cou, il nous regarde l'air triste. Un autre autoportrait, datant de 57, dessiné au crayon noir, rehaussé de craie blanche, se trouve au Metropolitan Museum of Art de New York, ainsi que des études. Il est dessiné en buste, d'une veste et chapeau noir. Ce musée abrite aussi « Femme aux chrysanthèmes » de 56 et un autre autoportrait de 55-56. Du 16 au 22 septembre 1955, Degas se rend sur la côte méditerranéenne après un séjour à Lyon, rencontrer Flandrin et Lamotte. En traversant Avignon, il s'arrête au musée Calvé, copier quelques grands maîtres. La mort de Barras est un dessin, copie d'après Jacques-Louis David, peintre d'histoire. Il se trouve à la Bibliothèque nationale de France à Paris. Cette reproduction représente un jeune garçon, nu, longiligne, âgé de 14 ans. Hussard dans l'armée républicaine, il tomba sous une balle près de Cholet en 1793. La tête aux cheveux mi-longs, renversée en arrière, une jambe légèrement fléchie, traduisent la chute imminente. Il presse ses deux mains sur son cœur. Son régiment, pris en embuscade et renonçant à se battre, Joseph Barat, courageux, cria « Vive la République !» au lieu de « Vive le roi !» comme on lui ordonnait. Cet acte de désobéissance lui valut la mort.
Quelle description de Degas !
Ce jeune homme est doté d'un visage ovale, juvénile, aux paupières faiblement tombantes, un nez droit et des lèvres charnues, légèrement boudeuses. Il porte la barbe. Sensible à la beauté d'une œuvre, aimable, il est aussi d'un caractère susceptible. Il faut noter que Degas ne peint à ses débuts qu'essentiellement sa famille. Ainsi, son petit frère est dépeint dans René Degas à l'Encrier, 55, Huile sur toile, Northampton, Massachusetts, Smith College Museum of Art. René, âgé de 10 ans, drapé d'une tunique noire ceinturée, pose fièrement debout, la main droite appuyée sur la table où reposent encriers, cahiers, livres et porte-plumes. Tout est en clair-obscur. Seul le visage et la main apportent une note de clarté à la toile. Son autre frère, Achille, est représenté dans « Achille Degas », exécuté à la mine de plomb, de face et coiffé d'une casquette. Il se trouve au cabinet des dessins du musée du Louvre Orsay. Achille Degas en uniforme de cadet, une huile sur toile, est à la National Gallery of Art de Washington. Degas reprend, met en application, l'enseignement académique appris empreint de classicisme. Il dessine, copie, peint sans relâche. Son frère René se souviendra plus tard.
Je n'avais pas pu tôt poser mes livres et mes cahiers en rentrant du lycée qu'Edgar s'emparait de moi et m'obligeait à poser.
Dès 1854, Degas s'attelle à copier les maîtres anciens et ceux du XIXe siècle, tels Delacroix, David, Ingres, comme en témoignent les croquis de ses carnets. Portrait de jeune homme à la mine de plomb, supposé être de Raphaël, est au musée de Montpellier.
A-t-il d'autres passions ?
De par l'éducation reçue par son père Auguste, passionné de peinture et de musique, Edgar côtoie aussi le monde de l'opéra. Les compositeurs Georges Bizet, plus jeune de 4 ans, Emmanuel Chabrier, né en 1841, le violoncelliste Pilet, le bassoniste Désiré Diot, musicien de l'orchestre, deviennent ses amis. D'ailleurs, ils seront brossés dans un tableau en 1870. Mais nous irons un peu plus tard à l'opéra.
Des voyages formateurs.
En janvier 56, il rencontre Grégoire Souzzo, un ami graveur de son père, qui déclare en parlant de lui.
Quel courage il y a dans ses études! Il ne faut jamais marchander avec la nature. Il y a du courage, en effet, à aborder de front la nature dans ses grands plans et ses grandes lignes, et de la lâcheté à le faire par des facettes et des détails.
Le 15 février 56, Degas exécute un paysage d'après Souzzo, Bibliothèque nationale de Paris. En juillet, il entreprend un long voyage en Italie qu'il va renouveler jusqu'en 58. Séjour d'études des maîtres italiens, mais aussi visite de courtoisie à sa famille paternelle. À Naples, il retrouve son grand-père Hilaire, Henri et Édouard ses oncles banquiers, et ses tantes Rosine, Fanny, Laure, unies à des familles aristocratiques. Bien évidemment, il n'hésite pas à portraiturer tous les siens. À 22 ans, il n'est plus un apprenti et commence à avoir un style bien affirmé. Déplacements dans les galeries, les musées, études des œuvres antiques romaines, copies des maîtres italiens de la Renaissance. Tel est le parcours des lauréats du prix de Rome que Degas s'impose. Ses carnets regorgent de croquis d'après l'antique, à la mine de plomb, bustes de profil, études de main, études pour Saint-Jean-Baptiste et l'Ange, à la plume et encre brune, paysage du Capodimonte, à la mine de plomb. Tous sont gardés au cabinet des dessins, musée du Louvre. Il note aussi ses états d'âme.
« Je pense à la France qui n'est pas si belle. Mais l'amour de chez moi et du travail dans un petit coin l'emporte encore sur le désir de jouir toujours de cette belle nature. »
À propos des femmes, il écrivait le 7 avril 56.
« Je ne saurais dire combien j'aime cette fille depuis qu'elle m'a éconduit. »
Et à propos des Italiennes.
« Qu'il y a de jolies femmes et filles, c'est la grâce florentine. Toutes les femmes ressemblent à des Perugines. Est-ce une illusion ?»
Pour information, Perugine, peintre florentin, eut Raphaël comme élève dans son atelier vers 1500.
Le passage par la Villa Médicis.
Il part de Naples en octobre pour Rome jusqu'en juillet 57. Il côtoie alors l'Académie du soir à la Villa Médicis qui héberge l'Académie de France. Il dessine et retrouve ses amis à l'École des Beaux-Arts, Joseph Tourny qui l'initie à la gravure et à l'eau-forte, Élie Delaunay, Émile Bonnat, Émile Lévy. Toujours copier, dessiner, peindre à l'assablement. Degas s'astreint à un rythme digne des pensionnaires de l'Académie de France. Il s'attelle à la peinture d'histoire, à quelques esquisses de paysages, aux études de scènes locales, telles mendiantes romaines, Birmingham City Museum and Art Gallery. Il utilise la peinture à l'huile, la mine de plomb, la plume et l'encre, l'aquarelle. Fidèle aux préceptes d'Ingres, à la tradition, il en gardera l'empreinte.
Il faut copier et recopier les maîtres. Et ce n'est qu'après avoir donné toutes les preuves d'un bon copiste, il pourra raisonnablement vous être permis de faire un radis d'après nature.
Il fonde avec ses camarades la congrégation des châtaignes grillées et se rend aux rencontres des artistes français au Café Gréco. Le 7 juillet 57, Hilaire Degas invite Edgar à venir le voir dans sa villa di Capodimonte. Degas arrive à Naples le 1er août. Il en profite pour peindre son grand-père et son oncle Édouard. Puis il repart à Rome fin octobre et continue à copier à la chapelle Sixtine, la galerie Capitoline.
Une autre entrevue déterminante.
Début 58, sa rencontre avec Gustave Moreau, vraisemblablement à la Villa Médicis, va être déterminante sur l'évolution de sa carrière. De 8 ans son aîné, Moreau étudia 2 ans dans la péninsule les chefs-d'œuvre italiens après la mort de son maître Théodore Chassériau. En perpétuelle recherche et évolution artistique, il s'attache alors à la couleur. Il va libérer Degas d'une peinture trop académique, de la dépendance de son maître Lamotte et de sa vénération à Ingres. C'est certainement à cette époque que Degas découvre le pastel et qu'il va se dégager de la peinture officielle. Moreau lui fait partager sa passion pour Delacroix. En juillet 58, Edgar reçoit une lettre de Tourny qui lui écrit
« Nous pensons toujours aux Degas qui bougonnent et à Edgar qui grogne. »
Invité par sa tante Laure Bellili, de Rome, Edgar remonte sur Florence pendant l'été. Il passe par Viterbe, Pérouse, Assise et fait des esquisses au passage. Malheureusement, celle-ci est retenue à Naples au chevet de son père malade. Degas reste donc seul quelques mois avec son oncle irritable, Gennaro Bellili. Edgar se morfond. Car son ami Moreau est à Venise. Il n'a de contact qu'avec un aquarelliste anglais et John Pradier, peintre. Il visite Sienne avec Königswarter, un ami de Moreau. Le 21 septembre 58, il lui écrit
« Je ne deviens pas grand-chose. Je m'ennuie assez étant tout seul. Le soir, je suis un peu fatigué de la journée et je voudrais causer un peu. Je ne trouve pas à ouvrir la bouche, alors... Après avoir pris une glace au café donné, je rentre avant 9h. Quelquefois j'écris, comme je le fais à présent. Le plus souvent, je lis avant et après m'être couché. Puis, vous savez le reste. Encore ceci sur moi, puis c'est tout. J'ai fait mon esquisse du Giorgione. Ça m'a demandé près de 3 semaines. J'ai fait presque une copie de l'ange de Véronèse dans son ébauche. J'avais vos encouragements, comme il me manque. Je recommence à me désespérer, un peu comme par le passé.
Edgar, seul dans sa vie amicale, l'est tout aussi dans sa vie sentimentale, qui est assez impénétrable. Pense-t-il au mariage ? En croisant un couple d'anglais, il écrit
« Il y avait du bonheur dans leur intérieur. Puissais-je trouver une petite bonne femme, simple, tranquille, qui comprenne mes folies d'esprit ?»
Nous laissons aujourd'hui un Edgar bien mélancolique et désespéré à Florence. Je vous invite à poursuivre prochainement notre voyage en terre de couleurs sur cette même antenne pour les retrouvailles avec sa tante.